Le titre de la prédication ce matin, c'est « Se nourrir de Jésus ». Ce n'est pas du cannibalisme, vous n'en faites pas. Mais vous allez voir qu'il y a des textes qui font penser à cela et qui peuvent nous interpeller. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons profiter de notre vie humaine. Mais nous voulons profiter de cette vie en te donnant la gloire dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Nous voulons que notre vie parle de toi, que notre vie soit une communication permanente avec toi, que notre vie soit aussi un témoignage pour les gens d'aujourd'hui que tu es encore et toujours le Dieu suprême, la solution ultime au problème de l'homme. Accorde que ce temps que nous allons partager ensemble soit un moment où nous allons ensemble découvrir encore des choses qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Sois au milieu de nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Martin Luther, avant d'être le grand réformateur qu'il est devenu, très connu, et qui est devenu même un des grands personnages de l'histoire de l'Allemagne, Martin Luther, avant d'être tout ça, avait vécu au niveau de sa vie personnelle une révolution intérieure. Il s'est passé quelque chose dans sa vie qui a fait qu'il est devenu cet homme qu'il a pu être par la suite. Cette révolution intérieure s'est faite avec la rencontre de Jésus-Christ. Au fond, ce n'était pas son but nécessairement d'être comme les autres, de taper dans l'édifice de l'Église catholique pour le faire écrouler ou en tout cas d'exiger que les choses changent. Ce n'était pas a priori sa démarche première, mais c'est devenu sa démarche parce qu'une révolution à l'intérieur de lui s'est opérée. Quelque chose a bouleversé sa vie et lui a donné une motivation nouvelle d'œuvrer pour la réforme de la chrétienté de son époque. Nous aussi ce matin, nous avons besoin qu'une révolution à l'intérieur de nous se poursuive et se fasse. Oui, elle a déjà commencé en Jésus-Christ. Nous avons besoin qu'elle continue et qu'elle prenne de l'ampleur au-dedans de nous, afin que nous aussi, aujourd'hui, nous soyons les agents du réveil, les agents du réveil, du retour de la chrétienté, du christianisme dans notre époque. Vous savez que nous sommes une société déchristianisée, où le christianisme ne représente plus qu'un petit pourcentage et nous sommes regardés comme des extraterrestres. C'est le sens de ma prédication ce matin. Peut-être juste éveiller cette idée qu'il faut qu'une révolution intérieure, à l'intérieur de nous, puisse avoir lieu. Et pour cela, le texte que nous allons lire va nous aider tout doucement. On va cheminer là-dedans et découvrir finalement en quoi pourrait consister cette petite révolution à l'intérieur de nous. Nous allons lire le texte de Jean au chapitre 6. Ah oui. Est-ce que tu penses que tu pourrais aller dans une autre version, par exemple, Parole de vie, un truc comme ça? Maintenant, non. Bon, je vais alors prendre mon Nouveau Testament parce que c'est important que je puisse avoir mon... Voilà. Voilà. Quand on oublie de signaler à la technologie, alors heureusement qu'on a encore les exemplaires. Hein. Jean chapitre 6, verset 60, on va lire jusqu'au verset 71. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui croyaient, qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Quelle est donc cette parole au verset 60? Quelle est cette parole qui est qualifiée de dure à entendre, de dure à écouter? Qu'est-ce qui s'est donc passé dans cet endroit pour que vraiment la foule dans laquelle il y avait déjà des gens qui avaient été gagnés à la personne de Jésus puissent dire non, 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 et qu'il y en ait quelques-uns qui se retirent, qui cessent de suivre Jésus. Juste le contexte. Ces faits se passent après la multiplication des pains. Miracle extraordinaire. Les pains et le poisson distribués à 5000 personnes qui mangent, qui sont contents et qui sont heureux, qui voient un Jésus, qui découvrent un Jésus extraordinaire et qui veulent garder ce Jésus. C'est ça le contexte. Peut-être que le texte biblique lui-même pourrait mieux rendre compte de cela. Nous allons prendre donc du verset 22 au verset 59 pour un peu comprendre l'arrière-plan. Comment il en est venu, la foule en est venue à réagir de cette façon-là. 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, entre parenthèses, ça veut dire que la rumeur s'était tellement répandue que d'autres personnes sont venues pour vivre quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. » Et lui dire, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Vous croyez, vous fassiez confiance, vous soyez dans une disposition d'écoute favorable pour accorder votre confiance. Alors, il lui demande au verset 30, « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu ?» Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que les pères me donnent viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'est-ce qu'il avait dit ? Je suis le pain qui est descendu du ciel. Il disait, mais n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère ? Mais comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père ne m'a envoyé. Pardon, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair et que je donnerai pour la vie du monde. Alors là-dessus, verset 52, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. » Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Waouh! Même vous, quand vous écoutez ça, vous dites, il y a comme un stut là, quand même un problème. Hein? Ils n'ont pas tellement tort, ces gens-là. Qu'est-ce que Jésus veut dire? C'est un texte que j'aime particulièrement, parce qu'il y a un verset au cœur de tout ça, que je n'exploiterai pas aujourd'hui, bien sûr, mais que j'aime beaucoup, c'est ce verset 63 au milieu là qui dit, c'est l'esprit qui vivifie, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Pour moi, ça a été une révolution dans ma petite vie, vraiment de découvrir la profondeur de ce verset. Mais ce matin, ce que j'ai à cœur, c'est vraiment de procéder de deux manières, et de voir se dévoiler quelque chose qui peut nous interpeller pour que une petite flamme, une révolution à l'intérieur de nous, nous emmène à aller de l'avant dans notre marche avec Dieu. Jésus se retrouve dans la synagogue à Capernaum. Et la foule qui le suit, tout de suite, Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui tourne autour du pot, tout de suite, tac, vous ne me cherchez pas moi. Pour moi, vous me cherchez parce que vous avez été rassasié. Vous avez eu à manger et vous êtes content et vous me cherchez pour ça. Il leur révèle que ce qu'ils cherchent en réalité, c'est un maître religieux et politique, mais pas un maître spirituel. Même s'il l'appelle rabbi, il s'agit d'un rabbi plutôt religieux et politique. Ils veulent un Jésus qui comble leurs besoins matériels et non un Jésus qui vient les combler spirituellement. À cause de cela, le dialogue a l'air d'être un dialogue des sourds. Jésus parle, ils ne comprennent pas ce que Jésus dit. Ils réagissent d'une manière qui montre qu'ils ne comprennent pas ce que Jésus veut dire, et Jésus surenchérit en restant sur un terrain que eux ne comprennent toujours pas. Un vrai dialogue des sourds. Un dialogue de sourds ne se situe pas sur la même longueur d'onde. Au point que les gens demandent même à Jésus de faire un miracle pour montrer qu'il est bien l'envoyé de Dieu. Mais, quelle question ! Est-ce que c'est pas Jésus qui a multiplié les pains ? C'est pas lui qui a fait cette miracle, la distribution des pains ? Et qu'ils ont mangé, et donc se sont rassasiés. Mais pourquoi lui demande-t-il encore un miracle ? Que veulent-ils savoir encore en plus ? Le dialogue est un dialogue de sourds. Et il va tellement loin que les voilà qui disent, mais attends, ce type, il dit qu'il est le descendu du ciel. Mais c'est Jésus. Ce Jésus-là, on le connaît son père, on connaît sa mère, on connaît ses frères. Il vit ici avec nous, à Nazareth, à Galilée. En Galilée, c'est là qu'il a grandi. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Qu'est-ce que c'est que cet homme raconte ? Pourtant, après la multiplication des pains, ils étaient prêts à le consacrer roi. Ils étaient prêts à l'élever. Tout d'un coup, à cause de ce que Jésus dit et qu'ils ne comprennent pas, le voilà qui est relégué au niveau des simples humains. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il ne se situe pas sur la même longueur d'onde. Pourquoi ? Parce que leurs attentes ne sont pas celles de Dieu. Elles sont leurs attentes à eux. Elles se mettent au niveau charnel. Ce sont des attentes matérielles. On regarde comme à Jésus et regardez non pas comme ce mendiant qui regarde la personne qui est en face d'elle. Avez-vous déjà remarqué ça ? Quand vous êtes en face d'un mendiant, qu'est-ce qu'il regarde ? Il regarde votre main. Il regarde votre main qui va aller dans la poche pour lui donner. C'est ça que le mendiant regarde. Il ne vous regarde pas dans les yeux. Hein. Il ne vous écoute pas. Vous pouvez lui parler comme vous voulez. Oui. Tout ce qu'il attend, c'est quoi ? C'est que quelque chose sorte de votre poche pour lui. C'est les sous. Et nous, humains, nous abordons Dieu de cette manière-là. Comme des mendiants. Nous voulons juste ce qu'il peut nous donner. On ne veut pas de ce que lui a à nous dire. On veut juste ce qu'il a à nous donner. On dit qu'il est tout puissant, qu'il peut pourvoir à nos besoins. Eh bien, c'est ça qu'on veut, qu'il donne. On dit qu'il peut nous sortir des graves problèmes. Eh bien, c'est ce qu'on attend, qu'il nous sorte de ces problèmes. Et les gens du monde vont dire, nous, on ne veut pas de Dieu. Pourquoi ? Parce que si c'était un bon Dieu, pourquoi il y a des maladies ? Pourquoi il y a la guerre ? Pourquoi il y a des problèmes ? Pourquoi ? Parce que ce qu'on attend de Dieu, c'est qu'il donne. Qu'il donne. On est sur le niveau matériel. Finalement, c'est ce que Marie-Luce disait. Dieu est présenté comme un distributeur. C'est ça que tu as dit. Distributeur des cadeaux, des dons. C'est exactement ça. Quelque part, nous aussi, nous pouvons dans notre vie spirituelle avoir un dialogue de sourds avec Dieu. Chaque fois que nous abordons Dieu par rapport à nos attentes exclusives. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, aide-moi à résoudre tel problème. Seigneur, fais ceci pour moi. Fais cela pour moi. Seigneur, écoute ça. Et je m'appuie sur sa parole. Je dis, Seigneur, je jeûne, je prie, je fais tout ce que je dois faire, tous mes devoirs de chrétien, parce que je veux obtenir ce que toi, tu as promis dans ta parole. Et là, nous sommes à un niveau où notre langage avec le Seigneur n'est pas le même. On est dans un dialogue de sourds. Ce matin, et c'est la deuxième chose que je voudrais aborder, je vais faire ce message relativement court, même si ce texte est un texte qui a tellement de choses où qu'il faut ramener pour mieux comprendre. Mon but n'est pas de faire une étude biblique sur ce texte, puisqu'il est tellement profond, mais juste de traverser le texte et de pouvoir élever des choses sur le chemin. Alors Jésus, deuxième démarche maintenant, la première démarche étant qu'il y a le dialogue de sourds qui se met en place. Ce dialogue de sourds, attention, ce n'est pas seulement pour eux, c'est pour nous aussi. Nous sommes aussi concernés. Lorsque chaque fois nous prenons Dieu comme simplement un distributeur des cadeaux, simplement celui qui vient pour faire ce que nous, nous avons envie, nous sommes dans un dialogue de sourds avec Dieu. Voilà, c'est le premier point. Deuxième point, c'est ce que je vais aborder maintenant. Jésus les provoque sur leur terrain. Ok, vous parlez de manger. Ok, allons-y. J'ai multiplié les pains. Vous dites, oh, donne-nous encore notre miracle, puisque tu viens de Dieu. Prouve-nous encore quelque chose d'autre. Non, non, même pas prouve-nous encore. Prouve-nous quelque chose. Parce que nos pères à nous, eh ben, Dieu leur a donné à manger dans le désert. Il leur a donné de la manne. Eh ben, toi, donne-nous un signe de ta gloire, que tu es vraiment l'envoyé de Dieu. Donne-nous une preuve. Et c'est là que Jésus les provoque. Jésus les provoque sur leur terrain. Il demande, il dit, ok, votre signe est en rapport avec la manière dont Dieu vous a nourri dans le désert. Très bien, avec la manne. Eh bien, moi, je vous dis que je suis justement cette manne-là qui est descendue du ciel. Je suis justement ce pain-là qui vient de Dieu et qui est descendu ici sur la terre. Pire encore, il parle de son corps. Il leur dit, celui qui ne mange pas mon corps et qui ne boit pas mon sang, eh ben celui-là n'aura pas la vie éternelle. Waouh ! Quelque chose tourne pas rond là. Comment est-ce qu'on peut manger quelqu'un ? Souvenez-vous, parenthèse simplement, Jésus a souvent ce langage-là avec un niveau de langage qui est toujours parfois se rencontre pas. Souvenez-vous avec Nicodème, il lui dit la même chose, hein. Nul, s'il ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume. Nicodème, attends. Et il faut revenir dans le sein de sa mère pour, à nouveau, c'est quoi ce truc-là? Alors, évidemment, ils s'indignent. Évidemment, ils sont choqués. Comment on peut manger quelqu'un? C'est du cannibalisme. Boire son sang. Mais c'est pire encore. Parce que pour un juif, la vie est dans le sang. Boire le sang de quelqu'un, mais purée, c'est pire que le cannibalisme. C'est monstrueux. Et ils sont vraiment choqués. Ils sont vraiment choqués. Et Jésus leur dit, ah, ça vous choque? Ah, ça vous scandalise? Mais si vous aviez vu, si vous voyez un jour le Fils de l'homme remonter vers le ciel, vous allez dire quoi? Voyez, Jésus se situe sur un autre plan. Il est sur le plan spirituel. Et eux sont sur le plan matériel. En fait, la question c'est, pourquoi est-ce que Jésus a-t-il poussé ce dialogue des sourds si loin? Il aurait pu se dire, ok, on se calme les gars, je vous explique. C'est pas compliqué, je vous explique. Non. Il pousse encore le dialogue de sourds plus loin avec cette histoire de manger son corps, de boire son sang. Pourquoi Jésus pousse ce dialogue si loin? Pourquoi il développe cette discussion avec la foule autour de la nourriture? C'est là que se trouve pour moi la source de cette petite révolution intérieure qui pourrait embraser notre vie et nous rendre capables d'avoir de l'impact dans l'œuvre de Dieu. Dans ce texte, Jésus révèle que derrière le langage qu'il tient, il y a une réalité puissante, susceptible de dynamiser nos vies spirituelles. On va regarder le verset 26 et 27. Alors, moi j'aime bien ma version ici, parce qu'elle est la version pour les gens d'aujourd'hui. Hein. Ça, c'est pour les gens du 19e siècle, bon, 20e. Hein. Oui. Non, pas merci, parce que moi aussi, je suis de 1900, hein, n'oublie pas. Hein. Mais ici, c'est une version qui est faite pour les plus jeunes, ceux qui lisent les smartphones, qui ont besoin d'aller très très vite dans leur façon de réfléchir. Alors, on a fait cette version. Regardez le verset 26, d'abord dans cette version-là. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Verset 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Je vais reprendre le même verset 26 pour plus d'éclairage, parce que si je dois me mettre à tout expliquer, peut-être c'est plus simple en le relisant dans un autre langage, vous allez mieux saisir un peu les éléments. Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris que ces miracles sont des signes de ma mission divine. Non, vous m'avez suivi parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Au lieu de travailler pour une nourriture périssable, concentrez donc vos efforts sur celle qui dure dans la vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme veut vous la donner. Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir. Il l'a accrédité en le marquant de son sceau. » Deux sortes de nourriture. Deux sortes de nourriture, une qui est périssable. Périssable dans le sens que ceux qui les mangent, ils meurent quand même en fin de compte. C'est ce qui se passe avec ceux qui ont mangé la manne dans le désert. Ils l'ont mangé, mais ça n'a pas empêché que lorsque le temps de leur fin de vie est arrivé, ils sont morts. L'autre sorte de nourriture, celle que le Fils de Dieu donne, c'est une nourriture qui subsiste jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire que c'est une nourriture qui traverse la mort pour continuer dans la vie éternelle. C'est la nourriture qui procure la vie éternelle. Deux sortes de nourriture. La deuxième sorte de nourriture, au verset 27, est une nourriture spirituelle qui s'acquiert par le travail. Travailler, travailler. C'est quand même un peu drôle de dire cela. Comment on peut comprendre ça? Pour pouvoir acquérir cette nourriture, il faut travailler. C'est-à-dire faire un effort. C'est-à-dire se rendre apte à recevoir cette parole. En renonçant par un sérieux effort de volonté aux erreurs, aux préjugés de l'homme naturel. La nourriture spirituelle s'acquiert par la volonté, par le « je veux », par le « j'ai le désir ». Ça ne s'arrête pas à dire « Ok, Seigneur, je ferme les yeux, tu me donnes cette nourriture-là. Je vais la chercher. Je fais l'effort de la chercher. Je fais l'effort de la trouver. Je fais l'effort de la manger. » En quoi consiste cette nourriture? Alors, les versets 53 à 56, tu peux les montrer. Alors, vous allez le regarder, mais moi je vais le lire dans cette version, comme ça. Alors, c'est la fameuse question qui est posée à Jésus, et Jésus qui répond. Alors, Jésus leur répondit, « Oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie véritable en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et moi je le ressusciterai le dernier jour. Car ce qui nourrit vraiment, c'est de manger ce qui constitue mon corps, ce qui délivre de la soif, c'est de boire mon sang. Celui qui se pénètre de ma vie et de ma mort, et dont je deviens chair et sang, demeure en communion avec moi, et moi je vis en lui. » En quoi consiste donc cette nourriture? Cela consiste à manger le Seigneur Jésus. Oh! Vous n'êtes pas choqués, vous? Non. Alors, vous n'êtes pas choqués parce que vous savez très bien que ce n'est pas manger concrètement, ce n'est pas prendre sa viande et manger. Quoique, dans certaines théologies chrétiennes, je ne vais pas citer quelle tendance, on croit ça. À travers la Sainte Cène, on pense qu'on mange vraiment le corps de Jésus, qu'on boit vraiment son sang. Il paraîtrait que dans cette théologie-là, il se passe des choses vraiment, vraiment extrêmement bizarres. Mais on s'éloigne de la parole de Dieu complètement. Quelle est la portée de, de, de cette phrase. Il est clair qu'il ne s'agit pas d'un texte qui s'applique à la Sainte Cène en premier lieu. Ce n'est pas sa première portée. Ce n'est pas la Sainte Cène. Bien sûr, on l'utilise pour la Sainte Cène, mais ce n'est pas sa première portée. Sa première portée spirituelle, la priorité dans la façon de comprendre cela se trouve dans l'acte même de manger et de boire. Qu'est-ce qu'on fait quand on mange et quand on boit? Quand on mange et quand on boit, on nourrit son corps. Oui? On nourrit son corps par l'assimilation de la nourriture. Je mange, donc je prends de la nourriture qui va me permettre, en entrant dans ma bouche, en avalant, etc., etc., qui va permettre que ça fonctionne à l'intérieur de moi pour me donner de la vitalité, pour me donner de la force, me permettre de pouvoir avancer. En quelque sorte, manger. Ici, la portée est l'assimilation. C'est porter à l'intérieur de son corps quelque chose qui nous donne la vitalité, qui fait vivre notre corps. C'est la fonction de la nourriture. En mangeant le corps de Jésus, on l'assimile à nous. On lui donne de devenir en nous la source de vie. En même temps, cet acte évoque l'idée que cette expérience n'est possible que par l'œuvre de la croix. Autrement dit, manger cette nourriture, manger le corps de Jésus, boire de son sang, ne peut pas être compris autrement qu'à travers l'œuvre que Jésus a fait à la croix, sa mort sanglante à la croix. C'est pour ça qu'il revient souvent là-dessus. Il revient souvent là-dessus. Christ, crucifié pour nos péchés, aller de l'avant dans sa vie chrétienne, manger le corps du Seigneur, ce n'est pas prendre cette nourriture, la manger concrètement. Non, il s'agit d'une démarche spirituelle qui consiste à croire en Jésus, à lui donner notre vie. Et vous voyez, ce n'est pas un simple acte de foi, ce n'est pas seulement croire. Croire dans le sens de, ok, c'est vrai que. Mais comme disait Marie-Luce, c'est pour ça que je dis que Marie-Luce, elle m'a tout pris. Retenez, quand on parle de la foi, retenez tout ce que Marie-Luce a dit. C'est la confiance. Une confiance totale. Un investissement total. Quelque part, ça nous interpelle à la question, est-ce que nous faisons totalement confiance à Dieu? Une confiance telle que nous lui laissons complètement nos vies. Je suis en problème, je suis en question, j'ai des impasses dans ma vie. Est-ce que je vais faire confiance totalement que Dieu me sortira de là, que Dieu agira? Il ne s'agit pas simplement d'un acte de foi, il s'agit d'une vie de foi. Vivre sa foi, vivre avec Christ à l'intérieur de nous comme le moteur de notre vie. S'imprégner de la pensée qui était en Jésus, dans toutes les circonstances de notre vie. Rechercher dans tout ce qui se passe dans notre vie, où est le Seigneur? Première question devant mon épreuve, Seigneur, où es-tu? Que ferais-tu dans ma situation? Devant mes problèmes, devant mes soucis, devant mes questions, même devant mes choix heureux, entre guillemets, où est le Seigneur? Que ferait-il? Que dirait-il? Manger et boire, c'est assimiler le Seigneur, s'approprier Dieu. Il devient celui qui vit avec moi chaque jour, au quotidien, qui partage ma vie, et il devient le chef de ma vie, en fait. C'est celui qui est au trône de ma vie. C'est celui qui prend les décisions à ma place dans ma vie. Et voyez-vous, je deviens le serviteur. Et lui devient le maître. L'homme charnel ne peut pas comprendre cela. Parce que l'homme charnel ne voit que les aspects matériels de la vie. Il ne voit que ce qu'il peut recevoir, ce qu'on peut lui donner, tout le profit qu'il peut tirer de toutes les affaires. La spiritualité, ça devient quelque chose qui n'est là que pour lui apporter, le combler. Voyez-vous, On se moque souvent des gens qui sont dans la théologie de la prospérité. Parce qu'on dit, ouais, ces gens-là, ils pensent qu'à prospérer, à prospérer, à prospérer. Nous sommes tous, quand on ne regarde pas, quand on ne fait pas attention, nous sommes tous les mêmes. On a tendance à faire de Dieu notre solutionnaire. J'ai pas d'argent, Seigneur donne. Je veux une voiture, Seigneur donne. Je veux des bonbons, Seigneur donne. Je veux des enfants sages, Seigneur donne. Je veux ceci, Seigneur donne. On veut tous faire de Dieu un Dieu qui puisse être à notre disposition. Et quelque part, les paroles que Jésus va dire et que la foule va contester, effectivement, sont esprit et vie. La foule ne peut pas les comprendre. On ne peut pas comprendre cela facilement. Il faut la foi. Il faut une foi qui est possible, mais qui n'est possible que par l'éclairage de la révélation qui vient de Dieu. C'est Dieu qui va aider à ce que notre foi nous fasse voir les réalités spirituelles. C'est pour ça qu'il va dire, personne ne vient à moi si ce n'est Dieu qui l'a attiré. Il faut la révélation de Dieu. Mais cette révélation, elle est là pour les cœurs qui sont prêts à croire. Pour ceux qui disent, Seigneur, j'y comprends rien à tes affaires. J'y comprends rien, mais je te fais confiance. J'arrive pas à bien saisir dans telle situation où tu veux m'emmener, mais je te fais confiance. Je sais pas où je vais, je te fais confiance. Abraham, il est parti sans savoir où il allait. David, ou un roi à l'âge de 16 ans. Au moment où là où un roi, il y avait un roi, et le roi là était bien en forme, hein, bien en chair. Hein. Quand est-ce qu'il est devenu roi? Il a dû se cacher dans les cavernes, il a dû même devenir le chef des rebelles, il a dû faire des guerres qui ne lui concernaient pas du tout, il est allé même se battre comme général mercenaire dans l'armée des Philistins pour pouvoir faire la guerre avec les Philistins, pour faire gagner les Philistins. Et même quand les Philistins sont venus tellement forts et que les Philistins ont dit, bon, maintenant on est assez fort, maintenant on va attaquer Israël, il a dû lui trouver des petits chemins pour dire, écoutez les gars, moi je fais pas cette guerre-là, je fais pas attaquer mon peuple. Galère. Joseph, 17 ans, vendu esclave, galère, 13 ans d'emprisonnement, 13 ans de misère, 30 ans, le voilà qui devient qui? Le vice-roi d'Égypte. La foi, c'est partir avec Dieu, en laissant Dieu mener les choses et en lui faisant complètement confiance. Quelque part, la foi, c'est renoncer à nos droits, renoncer à qui nous sommes. Renoncer au droit de décider de ma vie comme je veux. C'est renoncer à dire les choses que moi je crois être bien. C'est renoncer à ce code moral qui m'appartient, que je pense que moi j'ai ce code moral. Je suis au-dessus de tout le monde. Je suis le meilleur. Je suis le plus beau. Avoir la foi, c'est dire, le boss, c'est Dieu. Comment moi je peux faire pour que la vie de Dieu, la réalité de Dieu, s'imprègne dans ma vie pour que ma vie à moi soit la vie que les gens voient, à travers laquelle les gens voient Dieu, voient Jésus. La foule ne pouvait pas comprendre le langage de Jésus. Mais Pierre l'a compris. Pierre et les autres, quand Jésus va leur dire, les gars, et vous restez faire quoi ici? Verset 68, on peut le regarder. Vous voyez, l'air de rien, on va à la fin, hein, l'air de rien, hein. Vous voyez, on est dans les derniers versets. Donc, rassurez-vous, on ne va pas dormir là-dessus. Versets 68 et 69. Regardez cette magnifique réponse de Pierre. Pierre, donc, Jésus demande, voilà, mais vous autres, là, pourquoi vous restez encore? Alors, Jésus, se tournant vers les 12, leur demanda, et vous ne voulez pas aussi partir? Mais Simon Pierre lui répondit, Seigneur, vers qui irions-nous? Toi seul, tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous t'avons fait confiance. Et nous avons acquis la conviction que tu es le Saint envoyé de Dieu. nous t'avons fait confiance. Et parce qu'ils ont fait confiance, ils ont acquis la conviction qu'effectivement, Jésus est le Saint envoyé par Dieu. D'abord, confiance. Ensuite, la preuve de la confiance. Les hommes, ça fonctionne pas comme ça. D'abord, la preuve, et puis confiance. Je viens acheter une voiture chez un concessionnaire de voitures. J'ai dit, monsieur, ça coûte combien votre voiture? La Audi, moi j'aime bien la Audi A8, là. Elle est bien, elle est chouette. Hein? Enfin, j'aime bien cette voiture en sachant très bien que je ne l'achèterai jamais de ma vie. Mais je l'aime bien cette voiture. Chaque fois que je passe, je la regarde, je dis, waouh, elle est belle cette voiture. Mais j'ai regardé le prix, ça ne coûte que 100 000 euros, c'est pas grave. Hein? Merci, merci. Je regarde, j'admire, je passe. Très bien. Mais enfin, voilà que j'arrive chez le concessionnaire, je dis, monsieur, j'aime beaucoup cette Audi. Vous savez quoi? Je vais vous l'acheter. Donnez-la moi, je pars avec la voiture et quand je reviendrai, je vous paierai. Le monsieur va me regarder et dire, il y a comme qui dirait un petit problème là. Je dirais même d'avance, il y a une rupture de confiance, tout de suite. Parce que je ne sais pas, monsieur, si vous reviendrez vraiment. J'aurais beau lui dire que j'habite en Belgique, que je suis belge, que je ne traverserai pas Anvers, je ne mettrai pas ça dans un conteneur en direction du Congo, et j'habiterai définitivement au Congo avec ma Audi qui n'aura... Mais non. Lui imaginera ça tout seul, il n'a pas besoin que je lui dise ça. D'abord, l'épreuve de la confiance, et puis la confiance. Ça, c'est l'homme. Mais Dieu, c'est d'abord la confiance, et puis l'épreuve de la confiance. Et Pierre et les autres ont compris cela. Se nourrir de Jésus dans ma vie quotidienne, c'est faire de Jésus non pas mon distributeur de petits bonheurs, celui qui comble mes désirs et mes besoins. En langage juridique, on dit ad nutum. Ça veut dire comme ça. Je claque, hop. C'est pas celui qui vient combler mes désirs comme je veux, mais c'est plutôt... Manger, se nourrir de Jésus, c'est faire de Jésus celui qui est à l'intérieur de ma vie, celui qui habite en moi et qui est le patron de ma maison, celui qui gère ma vie, celui de qui je me recommande, celui de qui je m'abandonne, celui de qui je me soumets. Comment y arriver? Comment y arriver? On ne peut y arriver qu'en suivant un chemin spirituel. Vous l'avez compris. On ne peut y arriver qu'en suivant un chemin spirituel, en accédant au langage spirituel de Jésus. Comment je peux comprendre Jésus? Je ne peux le comprendre que si véritablement je lui demande à la prière. Éclaire-moi, Seigneur. Je veux comprendre ton langage et je ne veux pas être piégé par mon langage à moi. Je ne veux pas avoir un dialogue de sourd avec toi. Je veux être sur la même longueur d'onde que toi. Seule la prière peut m'aider à le faire. La lecture de la parole de Dieu, sa méditation sérieuse, une méditation dans laquelle je ne recherche pas les choses qui vont me faire accumuler les promesses de Dieu pour que je sache comment obtenir encore les choses que je veux. Non, mais une méditation où j'apprends à découvrir qui est Dieu, quel est son caractère, quels sont ses désirs, quelle est sa façon de voir les choses. Et je demande à Dieu de m'aider à m'imprégner de ça. Troisième chose, le silence que je m'impose devant les épreuves. Mes amis, quand on a les épreuves, quel est le premier réflexe que nous avons? On se met en colère et on pointe un doigt à Dieu. Seigneur, c'est encore toi qui me mets toujours en difficulté. Comment est-ce que les autres sont heureux et pas moi? C'est encore toi. Je dois m'imposer le silence. On ne s'énerve pas. On ne pointe pas le doigt accusateur à Dieu. On reste calme. Le sérieux avec lequel je considère Dieu dans ma vie de tous les jours. Il y a des gens qui se moquent de Dieu en permanence. Il y a des gens qui ont un langage déplacé à l'égard de Dieu en permanence. Comment je réagis comment je prends position par rapport à ça. Et moi-même, comment je parle de Dieu. Enfin, dernière chose, dans la discipline et la consécration. Soyons disciplinés. Disciplinés spirituellement. Suivre une ligne et s'en tenir à notre ligne. La consécration. Faire attention à notre façon de vivre. Laisser les péchés s'amuser au football dans notre vie. Les péchés qui transforment notre vie comme un terrain de foot. Allez, boum, goal. Allez, boum, on court, on se rigole. Non ! Faire une vie consacrée où Dieu peut dire, ouais, avez-vous vu mon serviteur ? À le travailler, Seigneur, c'est pas un texte facile, mais combien elle est riche. Il y a tellement de choses. Et tu m'as orienté vers une chose précise. Merci pour la part que tu m'as donnée, la part que tu permets que les autres reçoivent. Et merci pour le cheminement que tu peux faire avec tout ça. Gloire, honneur et puissance à toi. Bénis-nous, bénis cette église et permets-nous que nous soyons des agents de la recristianisation de cette société aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.